Débat, BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Liliane Niacha et Francis Laloupo. Le débat.
Bienvenue au débat BBC Afrique, Africa Radio. Dans quelques instants, nous allons analyser avec nos invités l'essentiel des sujets qui ont été au centre de l'actualité africaine de cette semaine. Bonjour Francis Laloupo.
Bonjour Liliane, vous allez bien ?
Parfaitement bien, je pensais que cela
vous
se sentait dans ma voix.
Vous serez en grande forme aujourd'hui, d'autant qu'on va devoir...
Ça se sent, non ?
On va devoir faire les émissions sans vous pendant quelques semaines, donc vous allez donner le meilleur de vous-même dans cette émission.
Ça, c'est sûr. Vous avez raison, Francis. Je serai absente pendant quelques semaines.
Absolument.
Et je suis sûre que vous allez parfaitement assurer, comme d'habitude.
Je garderai les clés, assurez-vous.
D'accord. Patrice Talon a-t-il convaincu l'opposition et ses compatriotes ? Le président béninois s'est expliqué dans un échange avec des journalistes sur sa décision de ne pas recourir à une ordonnance pour des législatives inclusives. Celles-ci sont prévues le 28 avril prochain et sauf miracle, l'opposition sera totalement absente de ce scrutin. Une première pour le pays depuis la fin du parti unique dans les années 90. L'inflexibilité du chef de l'État béninois va-t-elle décrisper l'atmosphère politique ou constitue-t-elle une menace pour la stabilité du Bénin ? Analyse dans ce débat. Quel avenir pour le Soudan après le départ forcé du pouvoir du président Omar al-Béchir qui dirigeait le pays depuis 1989 a été destitué par l'armée et qui s'est emparé du pouvoir dans une conjoncture politique particulièrement tendue. Depuis près de 4 mois, des Soudanais manifestaient contre le régime Béchir, une manifestation nourrie notamment par la hausse du prix du pain. Que vont faire les militaires du pouvoir qu'ils contrôlent désormais ? Décryptage dans cette émission. Nous parlerons enfin de la Libye qui poursuit sa descente aux enfers. Dernier épisode, les combats qui s'intensifient aux abords de Tripoli entre forces rivales. L'armée nationale libyenne du maréchal Haftar progresse vers la capitale, jusque-là contrôlée par l'armée du gouvernement d'Union nationale, reconnue par la communauté internationale. Quelle sera l'issue de cette offensive ? Et la paix est-elle toujours possible dans ce pays fragmenté par 8 ans de guerre. Restez avec nous pour les débats, mais d'abord le plateau, et c'est avec vous, Francis.
Oui, notre grand témoin invité dans cette édition, il est avec nous ici en studio à Paris, Valentin Dianotin, député à l'Assemblée nationale du Bénin, secrétaire exécutif du parti Force Corée.Bénin émergent, le FCBE. C'est le parti de l'ancien président Thomas Boni Yayi, ancien ministre, plusieurs fois ministre au Bénin. Valentin Dianotin, monsieur le député, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Laloupo.
Merci d'être avec nous, notre confrère invité dans cette édition. Il est avec vous à Dakar, près de vous, dans le studio de BBC Afrique, Liliane. C'est Bokar Alpha Khan, journaliste à e-radio, spécialiste des relations internationales, animateur de l'émission La Valise Diplomatique sur e-radio, justement. Bokar Alpha Khan, bonjour.
Bonjour Francis Laloupo.
Merci d'être avec nous. Petite fiche de présentation. Comme de coutume de notre grand témoin invité, Valentin Dianotin, énarque. Vous avez été le directeur général adjoint du Centre national hospitalier universitaire de Cotonou, député à l'Assemblée nationale du Bénin, juge à la Haute Cour de justice et secrétaire exécutif du parti des Forces Corée.Bénin émergent. Vous avez occupé plusieurs postes ministériels au cours des deux mandats de l'ancien président Thomas Boni Yayi, ministre de la Culture, de l'Alphabétisation, de l'Artisanat et du Tourisme, ministre délégué auprès du président de la République, chargé de l'économie maritime, des transports maritimes et des infrastructures portuaires, garde des Sceaux, ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme. Vous êtes en exil en France depuis octobre 2018, c'est bien cela, depuis
octobre.
Suite à la délivrance par l'Assemblée nationale d'une autorisation de poursuite à votre encontre, cette poursuite à des faits présumés de malgouvernance dans le cadre de la campagne agricole au Bénin de 2012 à 2013, 2013-2014, et des faits que vous contestez, bien entendu, monsieur le député.
Tout à fait, tout à fait.
Valentin Dianotin, vous serez en tout cas notre grand témoin dans cette édition des débats BBC Afrique, Africa Radio. C'est à vous Liliane à Dakar.
Une assemblée nationale monocolore, voilà ce que craignent certains Béninois qui appellent un consensus politique qui permettrait à l'opposition de participer aux prochaines législatives pour lesquelles elle a été recalée. Pour l'instant, les carottes semblent cuites. Jeudi soir, le président Patrice Talon a rejeté l'idée du recours à une ordonnance pour des législatives inclusives et il avance ses raisons, précisions avec la correspondante de BBC Afrique à Cotonou, Rachida Ousso.
Ce grand oral a duré une soixantaine de minutes, mais on retient que les lignes ne bougent pas. L'entretien télévisé a tout de même permis aux Béninois d'entendre leur président sur la question de la prise d'ordonnance afin d'ouvrir la compétition à l'opposition. Patrice Talon.
La prise d'une ordonnance par moi pour interférer dans le processus électoral, ce serait interprété comme un coup d'État. Est-ce que je vais organiser la remise en cause de l'ordre constitutionnel actuel? Je voudrais prier les leaders politiques de ne pas appeler à incendier le pays. Si ce pays leur tient tant à cœur, ne pas participer à une élection, la vie ne s'arrête pas là.
Justement, au sujet des menaces qui planent en raison de la posture de l'opposition, l'Union sociale libérale dit ne pas se sentir concernée par un tel message. Le secrétaire général adjoint de ce parti de l'opposition renvoie la balle dans le camp de la mouvance, Gérardo Gomez.
Qui est-ce qui a jamais dit qu'il allait incendier le pays? Si le président de la République tout seul en finit par y penser, c'est peut-être parce qu'il souffre. Et il a raison que ce sont ses actes qui sont à l'origine de telles tensions dans le pays. Il sait que les conseillers qui sont autour de lui et qui le poussent à foncer tête baissée sont ceux qui sont en train de vouloir la ruine du pays.
Le processus électoral suit son cours. La campagne a été ouverte depuis 0 heure. Rachida Oussou, BBC Afrique, Cotonou.
Voilà, le processus donc a commencé malgré la controverse. Mais d'abord, Valentin Dienantin, quels commentaires faites-vous des raisons qui ont été avancées par le président Talon pour justifier son refus à prendre une ordonnance afin de permettre à ses adversaires que vous êtes de participer au scrutin du 28 avril?
Alors, merci Liliane. Avant de répondre à votre question, je voudrais faire un petit rectificatif. Je suis effectivement en exil à Paris, mais ce n'était pas lié à l'affaire de Coton, encore que je n'ai jamais été ministre de l'Agriculture. L'Assemblée nationale effectivement a voté des résolutions. On devait comparaître devant la Haute Cour de justice, mais curieusement, le ministre de la Justice du Bénin a envoyé les résolutions au procureur spécial de la CRIET. La CRIET, c'est la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. J'ai intercepté cette lettre qui avait été publiée. Le jour où je venais à Paris, on envoyait des convocations chez moi pour que je me présente à la CRIET. Donc c'est surtout ça qui m'a contraint à rester à Paris. Alors je reviens à votre question. Vous savez, la sortie du chef de l'État hier, certains pensaient qu'il allait rebrousser chemin.
Il y a jeudi, puisque nous sommes vendredi aujourd'hui. Hein.
Voilà. Jeudi plutôt, la sortie donc du président le jeudi. Plusieurs pensaient qu'il allait revenir à de... Je n'allais même pas parler de meilleurs sentiments, parce que c'est lui-même qui a enflammé le pays. Mais contre toute attente, pour certains, sinon que nous, on était déjà convaincus qu'il n'allait pas faire demi-tour, parce que ceux qui l'accompagnent le qualifient de jusqu'au boutiste. Il a jeté complètement
peut-être
encore...
Peut-être parce qu'il estime aussi qu'il a raison.
Non, il n'a nullement raison. Il n'a nullement raison en ce sens que ça fait 30 ans que nous avons entamé cette marche démocratique après la conférence nationale.
Oui, vous commentez l'histoire politique de votre pays, mais lui, il explique que l'opposition, si je peux utiliser l'expression, a échoué à remplir les conditions requises pour que ces candidatures passent.
Madame Liliane, vous voyez, ça me fait rire. Ça me fait rire simplement parce que, vous savez, il y a deux problèmes fondamentaux qui sont à la base de ce bras de fer entre le régime et l'opposition. Vous savez, on a voté un code électoral et on a voté également une loi portant charte des partis politiques en République du Bénin. Alors, dans la charte des partis politiques, on dispose de 6 mois pour pouvoir faire la mise en conformité. La loi qui a été promulgué par le chef de l'État, les 6 mois devraient être accomplis le 17 mars. Donc, on n'a même pas attendu donc, l'écoulement de ce délai avant d'entamer les formalités. Et tous les partis se sont mis à jour. Ce qui a créé le problème, c'est l'invention d'un document par le président de la Cour constitutionnelle qu'on a appelé certificat de conformité qui n'a jamais existé dans la charte des partis ni dans le code électoral.
Pardonnez-moi encore, M. Dienantin, oui. Tout cela, on l'a suffisamment relevé dans des émissions précédentes,
oui.
Mais le fait est que vous n'allez pas participer aux élections et le président a donné ses raisons pour lesquelles il s'oppose à cette ordonnance souhaitée par certains au sein de l'opposition et même certains béninois. Qu'est-ce que vous répondez à ces raisons qu'il a avancées? Quel est le commentaire que cela vous inspire?
Non, justement, c'est ça que je vous explique.
C'était ça question.
Oui, la question. C'est qu'en réalité, il était tenu de prendre l'ordonnance parce qu'il a créé un incident qu'on ne peut vider à l'Assemblée. Parce que c'est l'Assemblée D'ailleurs, il faut vous dire que ce sont des propositions, des projets de loi, hein, c'est des lois que le moment il a envoyé, qu'il a cautionné. Et ces lois, en son temps, on avait contesté.
Pourtant, il a indiqué qu'il n'y était pour rien et qu'il y avait une séparation des pouvoirs. Même s'il a défendu, évidemment, pendant toute sa prestation télévisuelle, cette loi contestée.
Même si vous questionnez un enfant de 5 ans au Bénin, il va vous dire qu'il n'y a plus séparation de pouvoirs. C'est-à-dire l'exécutif, le législatif, le judiciaire, tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains d'un seul président. Alors, donc, c'est lui qui a créé l'incident. Tous les conseils n'ont pas écouté et on a constaté qu'il tient fermement à aller aux élections avec ces deux partis. Une chose est très sûre, l'opposition ne se laissera pas faire. Pour une première fois, le Bénin va connaître des moments chauds. Ce n'est pas notre souhait. Mais comme il a dit, il demande de ne pas mettre feu au pays, alors que c'est lui-même qui a mis le feu.
Mais en fait, Jonathan, vous avez déclaré que si le président Patrice Talon réussissait son passage en force lors des prochaines législatives, je vous cite, il n'y aurait plus rien dans ce pays. Et que répondez-vous quand même, parce que la question complète est celle de Liliane, que répondez-vous à Patrice Talon lorsqu'il dit que ce nouveau code électoral et surtout la nouvelle charte des partis politiques contribue, dit-il, au renforcement de la démocratie béninoise?
Mais comment pouvez-vous contribuer au renforcement de la démocratie alors que vous écartez tout parti d'opposition? La démocratie, ce qui nourrit la démocratie, c'est la contradiction. Il n'y a plus de contradiction. Le seul président a créé deux partis. Et il s'est arrangé pour que les deux partis-là aillent seuls aux élections législatives. Mais si jamais, effectivement, il réussit ce coup de force, vous allez constater qu'en 2020, où nous devrions aller aux élections communales et locales, ce sont ces deux partis qui vont se présenter encore. En 2021, où on devrait aller à l'élection présidentielle, il fera tout pour être encore le seul candidat. Encore qu'hier, il dirait qu'après 10 ans, 15 ans ou 20 ans, lorsqu'il va passer service à son successeur. Donc déjà, il sait aujourd'hui que lui fera 10 ans, 15 ans, 20 ans au pouvoir.
Mais quel est le but visé au fond? Parce que comme il le disait lui-même lors de cette présentation télévisuelle, il disait voilà, qu'il aurait pu compter sur une majorité à l'Assemblée nationale, qu'il n'avait pas besoin de promouvoir deux partis de sa mouvance qui seraient seuls donc présents à cette Assemblée nationale. Quel est le but visé en éliminant tout parti d'opposition d'une compétition électorale?
D'accord, merci. Avant de parler même du but visé, il faut se demander qu'est-ce qui peut motiver un président à un tel acharnement contre l'opposition. Il a tellement mal géré le pouvoir en 3 ans qu'il est convaincu qu'il est devenu totalement impopulaire. S'il laissait l'opposition aller aux élections, il ne pourra même pas avoir 5 députés. Donc, il se déclare compétiteur né, mais qui fuit la compétition. Donc, convaincu qu'il ne pourra pas avoir 5 députés et craignant de subir ou bien d'assister à un système où il aura l'opposition majoritaire à l'Assemblée nationale, c'est fini, il ne pourra plus continuer. Parce que son problème, c'est de réviser coûte que coûte la Constitution et d'instaurer une dictature par les textes.
Monsieur Jonathan, vous sermonnez, Patrice Talon, oui, mais certains de ses proches accusent aussi l'opposition d'arrogance et affirment que le piège s'est refermé en fait sur l'opposition parce qu'elle aurait refusé délibérément de se conformer aux conditions requises et exigées pour faire passer ses candidatures.
Oh oui, Madame Liliane, et c'est ça que je voulais expliquer, mais vous ne me laissez pas expliquer. C'est-à-dire comment l'opposition peut-elle refuser de participer à une élection? Je vous ai dit les deux pièces qui ont fait que l'opposition n'a pas pu aller aux élections. C'est d'abord cette affaire du certificat de conformité. C'est le ministère de l'Intérieur qui délivre le certificat de conformité.
Et le quitus fiscal.
Et le quitus fiscal, c'est la direction générale des impôts. Donc ce n'est pas l'opposition qui peut s'auto-délivrer ces documents. Le ministre de l'Intérieur qui est responsable du parti politique, le ministre de l'Intérieur qui est candidat, le ministre de l'Intérieur qui n'est rien d'autre que la voix du président de la République, n'a pas donné le document. Et tous les partis d'opposition ont déposé leur dossier. Les corrections ont été apportées. On nous a retourné, on a repris. Mais jusqu'à l'heure où je vous parle, aucun des partis n'a reçu le papier. Mais comment peut-on aller aux élections? Alors que ça fait partie d'une pièce maîtresse. Et la Sénat, c'est-à-dire la Commission électorale nationale autonome, dit lorsqu'une seule pièce manque, vous ne participez pas. Encore que les deux partis du chef de l'État, il y en a qui ont commis des fautes mineures. Pourtant, ils ont été acceptés. Donc, on ne pouvait pas être candidat du moment où nous n'avons pas les pièces. Le quitus fiscal, beaucoup de députés sont à jour vis-à-vis de leur dette fiscale. Moi qui vous parle, j'ai le quitus fiscal de la direction départementale des impôts et beaucoup de collègues en ont. On ne nous a pas donné. Donc, si on déposait encore nos dossiers, les dossiers seront incomplets. Donc, c'est eux qui nous ont boutés dehors. C'est ça que je vous dis, madame.
D'accord, l'opposition n'a pas pu participer, mais au niveau des discussions à l'Assemblée nationale souhaitées par le président de la République, comment expliquer que l'opposition et les partis de la majorité ne soient pas parvenus à un consensus qui aurait pu permettre à l'organisation des élections législatives inclusives?
Merci beaucoup. D'abord, vous savez, lorsque le chef de l'État demandait au président de l'Assemblée nationale de jouer à ce rôle
de médiation,
c'était un faux jeu, et ça on le savait déjà d'avance, simplement parce que le président de l'Assemblée nationale lui-même est de la mouvance. Et ce sont ces mouvanciers qui ont voté les différentes lois. Et dès le début, ils ont dit qu'ils n'ont pas de propositions à faire, parce que pour eux, les lois-là leur conviennent. Les propositions qui ont été faites par la minorité, les députés de la mouvance ont rejeté toutes ces propositions. Et leur condition sine qua non, c'est que nous acceptions réviser l'article 80 de la Constitution. Donc, le problème de la révision de la Constitution est revenu. Or, toutes les classes politiques sont contre la révision de la Constitution. Et même le président de l'Assemblée nationale a eu à le marteler pour dire de toutes les consultations qu'il a faites, aussi bien au niveau des anciens présidents de la République, des juristes, des constitutionnalistes et même des partis. Il y a un seul parti qui n'a pas nommé, qui a accepté. Encore que le président de la République a deux partis, si on dit qu'il y a un seul parti qui a accepté la révision, ça veut dire que des deux partis du chef de l'État, il y a un même qui est contre la révision de la Constitution.
On va dire les partis alliés de la mouvance.
Bon, les partis alliés de la mouvance, si vous voulez.
Ce ne sont pas les partis du président Talon.
Non, le président Talon a deux partis. Il a les deux partis qui sont retenus pour aller aux élections, c'est pour lui.
Le Bloc républicain.
Le Bloc républicain et l'Union progressiste.
C'est ça. Alors, on va peut-être écouter un commentaire de Bocar Alpha Kane à ce stade. Bocar Alpha Kane, quel regard vous portez sur cette situation singulière dans un pays qui a été montré depuis trois décennies comme un modèle de démocratie?
Ben justement, ça porte un coup à cette image de pays démocratique, de pays qui a vécu des moments difficiles après les conférences nationales, dont on pensait que qu'ils étaient irréversiblement sur la voie de la démocratie. Là, par un tripatouillage du système et des dispositifs réglementaires, on en arrive à une situation quand même inédite où l'opposition est incapable, en tout cas, de répondre favorablement aux dispositions de cette réforme sur la loi des partis politiques. Et on se retrouve donc avec un président qui est tout seul face au peuple, avec une Assemblée nationale qui risque d'être monocolore. C'est un truc qui est totalement
incompréhensible. Et justement, est-ce que c'est inévitable dans le contexte, si, aujourd'hui, en cas de statu quo?
Au point où on en est, c'est inévitable, sauf si le peuple décide massivement de boycotter l'élection, ce qui porterait un coup à la légitimité de cette Assemblée nationale. Mais pour l'instant, les négociations ont échoué. On a vu la concertation menée par l'Assemblée nationale qui n'a pas donné beaucoup de résultats. Parce que
et les propositions du comité paritaire n'ont pas été retenues.
Oui, et parce que l'opposition veut qu'on revienne sur cette loi, le temps d'organiser une concertation, de faire l'élection déjà, et ensuite de revenir pour voir si on peut modifier la loi électorale, ou en tout cas les lois et règlements au Bénin, sur, disons, la création et l'organisation des partis politiques. Le pouvoir s'y refuse et veut coûte que coûte aller aux élections sur la base de ces réformes-là. Donc le dialogue, il est de toute façon impossible. On a vu la rencontre aussi avec les chefs des institutions que Patrice Talon a reçue il y a quelques jours. Ce qui sort de cette rencontre, c'est que si le statu quo, si la situation reste telle qu'elle est, on ira à des élections et il n'y aura aucun parti de l'opposition dans cette Assemblée. Et je dis que c'est quand même dommage pour l'image de démocratie du Bénin.
Bon,
bien sûr. Une Francis, question rapide avant la pause.
Oui, quelle option possible reste à l'opposition, M. Dienantin, pour se faire entendre et plaider sa cause après, voilà, qu'on ait entendu le président Talon intransigeant?
Non, la seule option qui reste pour l'opposition, c'est la résistance. Et quand je parle d'opposition, ce n'est pas seulement les partis politiques d'opposition, ça c'est tout le peuple béninois. Et je voudrais que ça soit retenu une fois de bon, par tout le monde, que l'opposition n'a pas refusé d'aller aux élections. L'opposition n'a pas été incapable non plus de satisfaire aux obligations. Le président de la République n'a pas voulu que l'opposition aille. Parce que je vous ai dit, ce n'est pas l'opposition qui va traiter son dossier. Ils ont fait tout ce qu'ils peuvent faire. Tous les papiers ont été fournis au ministère de l'Intérieur qui, jusqu'au jour où je vous parle, n'a pas donné le certificat de conformité.
Merci. Mais
au niveau des impôts. Ce n'est pas nous qui allons nous délivrer également le quitus fiscal alors que nous avons payé tous les impôts. Donc, il ne veut pas de concurrence.
On marque une pause.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Liliane Niacha et Francis Laloupo. Le débat.
En duplex à Dakar et Paris, notre grand témoin invité, Valentin Djanotin, député à l'Assemblée nationale du Bénin, secrétaire exécutif du parti Force Corrie pour un Bénin émergent, FCBE, ancien ministre du Bénin. Notre confrère invité dans cette édition, Bokar Alpha Khan, journaliste à e-radio, spécialiste des relations internationales. Nous continuons de parler de la situation, cette situation est tout à fait singulière au Bénin. Alors, j'allais vous poser la question. Alors, c'est vrai que bon, je ne retrouve plus mes papiers. Je suis désolé, Liliane.
Mais
on va y arriver. Alors, je vous passe la main. Allez-y.
Voilà donc.
Ah, ça y est, j'ai retrouvé évidemment mes fiches. Valentin Djanotin. Alors, l'ancien président de la République, hein, Thomas Boniaï, qui est le président d'honneur de votre parti. Hein, lors d'une rencontre cette semaine avec une délégation de la francophonie en séjour au Bénin, a déclaré ceci, je le cite, « Nous restons fermes et déterminés à faire respecter et aboutir le principe sacro-saint démocratique selon lequel pas d'élection sans la participation de l'opposition. » Fin de citation. Alors, ma question est celle-ci, est-ce que cette affaire est en train de réactiver les divers contentieux entre l'ancien président et son successeur?
Oui, apparemment c'est ce qui se note. C'est ce qui se note parce que, vous voyez, l'actuel chef de l'État, au lieu de se concentrer sur l'œuvre de développement de la nation, c'est un peu comme si on est en train d'assister à un duel entre l'actuel président et l'ancien président, au point où...
Un duel entre chef d'État et querelle de personnes.
Et querelle de personnes, voilà, Madame Liliane. Donc, du coup, il y a des clivages qui se dégagent, mais qui n'auraient pas dû transparaître sur le champ politique. Donc, c'est un peu comme si le parti FCBE est en train de souffrir des problèmes personnels entre les deux personnalités.
Vous voulez dire que les règlements de compte qui ont précédé l'élection de Patrice Talon en 2007, ces règlements de compte se prolongent aujourd'hui?
Exactement, parce que le président Talon, étant aujourd'hui en position de force, a voulu se venger donc, de son ancien ami et a voulu tout mettre sur... le terrain politique. Du coup, il veut coûte que coûte œuvrer à la disparition du parti dont le président Yahya Boni est le président d'honneur.
Liliane?
Oui, mais est-ce que le président, l'ancien président Boni Yahya adopte une attitude différente parce que pour qu'il y ait querelle, il faut qu'il y ait deux personnes qui s'opposent en s'immixant et en restant actif sur le plan politique et au sein de son parti. Est-ce que le président Boni Yahya n'a-t-il pas lui-même contribué à exacerber la tension avec le nouveau président Talon?
Madame Liliane, non, je ne pense pas trop. Je ne pense pas trop dans la mesure où, depuis que le président Talon est là, le président Yahya Boni ne l'a jamais attaqué publiquement. Jamais. Il n'a jamais pris position publiquement pour dire quoi que ce soit pour le contrarier. Et ce qui pose problème aujourd'hui est que le président Talon, au départ, faisait objet de beaucoup d'attentes. Mais il a déçu tout le monde, même dans son propre camp, il a déçu tout le monde, au point où ceux qui, hier, ont rejeté le candidat du président Yahya Boni, aujourd'hui ont commencé par aduler le président Yahya Boni.
Lionel Zinsou.
Pardon?
Lionel Zinsou qui avait été...
Oui, c'est Lionel Zinsou qui a été donc le candidat de Yahya Boni. Donc, la population a voté pour le président Talon. Mais compte tenu de la mauvaise gouvernance qu'il a instaurée, Yahya Boni a commencé par avoir un électorat, une popularité telle que ça indispose peut-être le président Talon. Et du
Merci.
Coup, il pense que c'est lui qui l'empêche de travailler parce que chaque fois que le président Yahya Boni sort, c'est tout un monde derrière lui.
Monsieur le député, alors, il y a quand même une partie de la population qui soutient la politique menée par l'exécutif. En tout cas, Patrice Talon encore quand même des supporters au Bénin, si je puis dire. Est-ce qu'on a affaire aujourd'hui à un pays profondément divisé?
Oui, on a un pays profondément divisé, mais cette division n'est qu'une division apparente. Apparente en ce sens que si on peut faire un sondage, et c'est ça qui fait craindre le président pour qu'il refuse la participation de l'opposition. C'est-à-dire, sa cote de popularité a tellement chuté que vous n'avez que les quelques individus qui sont autour de lui, là, qui profitent du pouvoir. Sinon, vous allez au sein de la population, il n'y a pas cette couche sociale qui n'a pas été marquée par le cynisme, si je puis ainsi m'exprimer, de la gouvernance du président. Donc, ceux qui le soutiennent, ce ne sont que ses alliés. À part ça, quand vous allez dans la base de la population, ceux qui sont les couches défavorisées, vous ne trouverez personne.
Excusez-moi, vous parlez de référendum. Vous-même, vous n'en avez pas fait un pour avoir une idée de ce que pensent réellement les Béninois, le Béninois profond de la situation politique. Oui. Mais je voudrais m'adresser à vous, à Bokar. Est-ce que le rejet par l'Assemblée nationale de la réforme constitutionnelle du président Talon n'est pas passé aussi par là? Il y a comme une sorte de revanche aujourd'hui que veut prendre le président sur l'opposition en contrôlant, en voulant contrôler absolument le Parlement.
Oui, mais la clé, c'est ça. C'est-à-dire que si on allait aux élections législatives du 28 avril, normalement, sans la fameuse réforme qui est passée en fin d'année dernière, il y avait un risque de perdre la majorité à l'Assemblée et d'une crise donc institutionnelle qui ferait qu'il ne peut pas gouverner. Donc sans majorité.
Et donc pourrait pas faire passer sa réforme.
Justement.
Comme...
Donc du coup, il fallait absolument donc faire en sorte que de verrouiller le système pour éviter, pour s'assurer en tout cas une victoire confortable.
Donc vous pensez qu'il y a une vraie stratégie du président Talon pour verrouiller le système
pour et moi, d'après la lecture
mener
les
réformes qu'il souhaite sans adversaire, sans
évident.
Opposition.
Pour moi, c'est évident parce que ce type de réforme, on le dit un peu partout dans tous les pays africains. Souvent, il y a des réformes majeures qui mérite quand même un consensus de toute la classe politique. C'est des questions qui doivent être.
Justement, est-ce qu'il est possible, Bocar, aujourd'hui, dans un pays comme le Bénin, de mener des réformes, quelles qu'elles soient, sans avoir la paix sociale dans un contexte conflictuel ?
La démarche aurait été au moins salutaire et saluée. Mais s'il l'avait fait, on aurait dit au moins il a fait l'effort de discuter avec la classe politique. Ils n'y sont pas arrivés, il peut prendre les décisions.
Mais excusez-moi, Bocar, la discussion sur la réforme a été faite. Je veux dire, après, une fois que la Sénat a rejeté les candidatures de l'opposition, il y a eu des échanges, des tentatives de discussion à l'Assemblée nationale qui n'ont pas abouti. Donc, il y a eu des discussions.
Je dis, la réforme sur les partis politiques, c'est là où il devait y avoir la discussion, sur la nécessité et l'opportunité de faire ce genre de réforme. Qui ont un impact considérable parce qu'on le voit, l'opposition, on a tout fait pour les empêcher de se présenter à cette élection. Donc, ce n'est pas après qu'il faut faire la concertation, c'est avant. Et est-ce que cette loi était opportune à 6 mois de l'élection, des élections législatives ? On se pose ces questions-là, c'est pourquoi on dit que tout cela est une stratégie, forcément, pour s'assurer justement la majorité à l'Assemblée nationale et pour pouvoir gouverner tranquillement jusqu'à la fin. N'oublions pas que le président Talon a tenté de réformer par 2 fois la Constitution sans y arriver.
D'autant que, selon les indications, selon les prescriptions de la CEDEAO, il est interdit de mettre en place une loi électorale à moins de 6 mois avant une élection, avant une échéance électorale.
Voilà.
D'accord. Oui. On va conclure avec Francis, avec vous et notre invité.
Vous avez indiqué, Valentin Dionotin, que l'actuel combat au Bénin dépasse l'opposition et doit être le combat de tout le peuple. Alors, de quels moyens disposent concrètement aujourd'hui les politiques pour modifier la donne et dans l'hypothèse que ces législatives se tiennent quand même dans les conditions actuelles? Quelles en seraient les conséquences politiques pour le pays ?
D'accord, merci. Mais avant ça, je voudrais quand même répondre rapidement à une préoccupation de Mme Liliane. Et je confirme ce que disait M. Bocar tout à l'heure. Vous voyez, en réalité, ce qui se passe aujourd'hui, effectivement, l'Assemblée ne peut plus jouer ce rôle. Parce qu'en réalité, lorsque le protocole de la CEDEAO parle d'entente politique, ça ne se limite pas à l'Assemblée nationale. Il y a beaucoup de partis politiques qui n'ont pas de députés à l'Assemblée nationale. Donc, c'est la classe politique qui devait être interrogée. Et lorsque Liliane parlait également pour dire, bon, on n'a pas fait un référendum pour savoir comment peut-on...
Ce que pensent réellement les Béninois.
Lorsque l'échec, la deuxième tentative de révision de la Constitution, on a noté l'échec à l'Assemblée nationale, le président a voulu faire un référendum. Et ses soutiens ont voulu coûte que coûte aller au référendum. Ils étaient même prêts à modifier la loi référendaire. Mais il s'est rendu compte que si jamais il faisait ce référendum, ça va être encore le blackout, donc il a dû repousser le chemin. Et cette tendance continue toujours sur le terrain. Donc il est conscient, il est chef d'État. Il a demandé beaucoup de sondages qui prouvent qu'il n'est pas populaire. Je reviens maintenant à la question de M. Lalupo. Vous savez, vous ne pouvez pas forcer un pays à faire son destin. Je n'ai jamais vu ça. Un président qui se croit être une encyclopédie, un président qui se croit être Dieu, qui connaît tout, et qui pense que sa seule volonté doit faire l'unanimité de tout un peuple. Il ne peut pas forcer, ce n'est pas possible. Nous avons une démocratie vieille de 30 ans. C'est-à-dire, ce forcing ne pourra pas se passer. Et je risque fort.
Et la question était de forcer.
Et de quels moyens disposent aujourd'hui
les acteurs politiques pour inverser la situation, c'est-à-dire, c'est le soutien populaire. Parce que le peuple, même si vous allez aujourd'hui à Cotonou, vous pouvez faire un sondage, vous allez constater que, c'est-à-dire, c'est comme un feu incandescent. C'est-à-dire, à moins de choses, ça va s'enflammer.
Est-ce que les élections auront lieu le 28 avril
prochain dans ces conditions? Les élections ne pourront pas avoir lieu. Les élections pourront pas avoir lieu. Il a beau déployer des chars.
La campagne a commencé.
La campagne a théoriquement commencé. Mais si vous voyez la tension aujourd'hui sur le terrain, c'est inouï.
Est-ce que vous ne surestimez pas un peu cette tension vous...
Non, madame, je ne surestime pas du tout. Parce que c'est vrai, je suis à Paris, mais je suis...
Vous êtes à Paris, vous n'êtes pas
à Cotonou. Je suis à Paris, de corps, mais je suis 24 heures sur 24 heures d'esprit. à Cotonou. Et si, si vous voyez, si, depuis l'indépendance...
Mais la proximité qui aurait pu vous permettre de discuter directement avec de nombreux Béninois pour savoir ce qu'ils pensent, vous ne l'avez pas. Donc vous
ne pouvez pas dire qu'il faut juste une braise pour que ça s'enflamme. Je suis le chef d'un des grands partis, pour ne pas dire le plus grand parti du Bénin. Donc j'ai des informations venant de toutes les communes, de
vous
tous les départements.
Il y a quelques instants les chars déployés aujourd'hui dans le pays.
Les chars déployés.
C'est un spectacle inédit.
Ouais, donc aujourd'hui, une trentaine de chars ont quitté Cotonou pour aller à Parakou. Mais donc, qu'est-ce qui craint si tant ? Si tant est vrai qu'il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas...
C'est pour prévenir des risques de tension. C'est l'anticipation.
Le risque est énorme.
Anticipe.
Et le président, quoi, il pense mater...
C'est son devoir, non ?
Pardon ?
Le président anticipe. C'est son devoir.
C'est son devoir d'anticiper et de dresser des chars contre des citoyens qui sortent les mains nues, qui sont contre. Donc aujourd'hui, d'abord, on interdit. La constitution autorise les marches, autorise même, comment vous appelez ça, les cortèges. Mais on prend de simples arrêtés pour interdire les marches. Et on réprime les marches dans le sang. Le mercredi dernier, nous avons 5 personnes qui sont actuellement en prison. Vous avez vu la dame, célèbre Thérèse Wangwa.
On va passer au prochain sujet, s'il vous plaît.
Terminez votre phrase.
Oui, alors je disais donc que madame Thérèse Wangwa, qui voulait faire une marche et qu'on a arrêté, au lieu de la vigilance du procureur de la République, elle serait déjà en prison. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Donc, c'est quoi ? J'ai dit que le peuple est avec nous.
Oui, madame. On va passer au prochain sujet, s'il vous plaît.
Merci. Jonathan Jonathan, notre invité, député à l'Assemblée nationale du Bénin, secrétaire exécutif du FCBE. C'est le parti béninois Force Corée pour un Bénin émergent. Ancien ministre du Bénin, notre confrère invité à Dakar dans le studio BBC Afrique. Bokar Afa Khan, journaliste à e-radio, spécialiste des relations internationales. On va parler à présent du Soudan après la fin du règne d'Omar El-Béchir. Le risque d'une confiscation de la révolution par l'armée après 4 mois d'un conflit social lié à la situation économique du pays, mais qui a très tôt pris l'allure d'une véritable insurrection populaire. Le président Omar El-Béchir, âgé de 75 ans, au pouvoir depuis 1989, a été destitué par l'armée jeudi dernier. L'annonce a été faite par le ministre de la Défense qui a proclamé la mise en place d'un conseil militaire de transition chargé de conduire le pays durant une période de transition de 2 ans avant la tenue d'élections. Un dispositif rejeté par les acteurs du mouvement de contestation qui dénonce un putsch de palais. L'Alliance pour la liberté et le changement estime que, je cite, « le régime a mené un coup d'état militaire en présentant encore les mêmes visages contre lesquels le peuple s'est élevé ». C'est une fin de citation. La mobilisation demeure donc intacte pour, au-delà du départ de Omar El-Béchir, réclamer la fin du régime et la mise en place d'une transition consensuelle associant toutes les forces vives du pays. En attendant, l'appel a été lancé à tous les Soudanais de, je cite, « continuer le sit-in devant le quartier général de l'armée à Khartoum et à travers le pays ». Fin de citation. Valentin Dianotin, vous observez certainement cette situation. Manifestement, le départ d'Omar El-Béchir et la prise du pouvoir par l'armée ne sont pas une réponse suffisante à la demande des Soudanais. Il y a quelques jours encore, les contestataires réclamaient le soutien de l'armée pour faire démissionner El-Béchir. Et puis voilà, désormais, c'est cette même armée qui est contestée par la population. Qu'est-ce que vous pensez de cette équation ?
Monsieur Lalouko, ça va de soi. Ça va de soi parce que un peuple qui est fatigué d'un président qui a passé 3 décennies au pouvoir, cette contestation qui a été matée, où également le sang a coulé, ils ont sollicité, la population a sollicité effectivement le concours de l'armée. Mais ce qui s'est passé ne répond pas exactement à la volonté populaire. Parce que tel que les choses se passent, où le ministre de la Défense prend pratiquement le pouvoir et dit qu'il va instaurer une transition de 2 ans sans associer les civils, sans associer les différentes associations qui ont été à la base de cette insurrection, c'est un peu comme si rien n'a pratiquement changé. On a juste mis...
On peut parler de tentative de récupération par l'armée.
Merci, exactement, c'est ça, Madame Liane. Donc c'est une récupération. Donc on a mis juste le président en parenthèse et c'est le même système qui continue. Donc rien ne va changer fondamentalement. Donc si l'armée s'approprie ce pouvoir-là, ça risque même encore de se retourner contre ce même peuple. Parce que cette fois-ci, ils sont venus à la rescousse pour aider le peuple à se débarrasser d'un homme, mais pas à se débarrasser d'un régime. Donc moi, je suis tout à fait d'accord avec cette population qu'il faut qu'ils continuent à rester dans la rue jusqu'à ce que les négociations se fassent et qu'il y ait une transition consensuelle entre les meneurs, la population et peut-être l'armée. Et il faut savoir encore doser cette architecture pour ne pas fausser le jeu. De surcroît, 2 ans de transition exclusivement militaire, franchement, c'est comme si finalement les gens ont occupé la rue pour rien. Donc moi, je pense qu'il va falloir vraiment qu'on revoie encore les choses.
Bokar Afa Khan,
Oui.
Après plusieurs mois de manifestations qui ont abouti au départ du président Omar el-Béchir, est-ce qu'il y a de bonnes politiques de la part de cette armée de mettre en place une transition sans y associer les acteurs de la contestation, contestation que certains qualifient d'ailleurs de révolution?
En fait, le Conseil militaire de transition a annoncé ce matin que le gouvernement qui va être mis en place sera constitué exclusivement de civils.
De civils.
Donc, ils ont changé, la position a un peu évolué. Mais ce qu'il faut remarquer dans ce type de situation, c'est qu'en général, les militaires cherchent à sauver leur peau, ou en tout cas les gens du système. Donc, sachant que les choses pourraient basculer d'un moment à l'autre, ils cherchent donc à se réhabiliter un tout petit peu, réhabiliter leur image auprès de la population en faisant chuter le régime, en prenant les choses en main. Mais il reste des gens du système, c'est-à-dire que le système ne tombe pas, mais on change de clan. Et c'est ça qui pose un peu le problème, parce qu'on a vu la situation en Algérie, où le général Salah, à un moment donné, s'est désolidarisé du président Bouteflika en demandant qu'il soit déclaré inapte à gouverner. Donc, il cherchait
l'exigeant
un peu...
la vacance du pouvoir.
Exactement. Parce que les situations sont quasi similaires. Parce que chacun, n'oubliez pas que dans le monde arabe, aujourd'hui, les élites qui sont au pouvoir, dès qu'il y a une crise, ils cherchent des solutions à la Al-Sisi. C'est-à-dire profiter de la situation pour se donner une bonne image, se démarquer pour pouvoir récupérer le pouvoir et peser sur le système et perpétuer justement ce système que dénoncent les populations.
Changer les hommes, mais pas le système.
Exactement. Sauf que l'actuel chef de la junte, on peut l'appeler comme ça, le ministre de la Défense, Ben Aouf, de son nom de famille, mais il n'a pas les mains propres. Il est poursuivi pour un tas de choses, notamment par les États-Unis, le Trésor américain, pour du blanchiment, pour des fraudes et des délits en tout genre.
C'est ça.
Donc, et le peuple, forcément, voyant tout cela, ne peut pas être d'accord avec ça. Et je rappelle qu'il y avait les élections présidentielles au Soudan sont prévues l'année prochaine. C'était prévu en 2020. Et le président el-Béchir voulait modifier la constitution
pour se représenter
pour avoir un troisième mandat.
Après 30 ans de pouvoir.
Exactement.
Mais voici ce qu'a dit exactement l'Union africaine, Valentin Dienantin.
Oui.
L'Union africaine a exprimé la conviction que lui a, que la prise de pouvoir par l'armée n'est pas la réponse appropriée aux défis auxquels le Soudan est confronté et aux aspirations de sa population. Le communiqué de Moussa Faki Mahamat rappelle aussi que la déclaration de Lomé et la charte africaine de la démocratie condamnent fermement tout changement anticonstitutionnel de gouvernement. Est-ce que ce rappel était opportun et l'Union africaine, compte tenu de ce rappel, doit-elle par conséquent prendre des sanctions contre le président, le régime, l'armée qui a pris le contrôle du pays?
Oui, madame, au fait, ce rappel est important, mais ce rappel ne va pas fondamentalement changer les choses si la population ne maintient pas la pression de la rue. Je m'explique. Vous voyez, nos différentes organisations régionales n'ont pas de pouvoir coercitif en tant que tel. Donc, le rappel est important pour que les gens sachent quand même
c'est
que...
C'est un rappel de principe.
C'est un rappel de principe, merci. Et vous voyez, et ce qui serait davantage plus grave si on laissait l'armée faire les choses.
Mais est-ce que ce type de rappel, dans le contexte qu'on connaît, il y a eu des mois de manifestation, près de 4 mois, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est opportun de dire aux gens,
non.
Oui, alors qu'ils ont manifesté pendant 3-4 mois
Voilà, c'est-à-dire les gens auraient pu, l'Union africaine, la CIDAT, l'Union africaine aurait pu jouer à la prévention.
Intervenir plus tôt
que de laisser faire et de venir maintenant, comme on le dit, médecin après la mort. Parce que ce qu'ils sont en train de dire, au moment où les gens étaient dans la rue pendant 4 mois, où il y avait des impairs commis par le pouvoir en place, ou avec ces problèmes de déchets, tout ça là, on n'a rien fait. Donc aujourd'hui, moi je pense que ce n'est pas tellement opportun. C'est juste un plan de principe qu'on ne dise pas que bon voilà, l'Union africaine n'a rien du tout. Donc ils ont dit quelque chose pour s'adresser à ceux qui ont pris le pouvoir. Mais je crois que le mieux à faire, c'est plutôt de faire des jeux de couloir que de s'afficher pour paraître juste. Et là, je crois que la population aussi a très bien compris le jeu et a demandé de maintenir la pression. Et lorsque la pression sera maintenue, ça va arranger encore les choses. D'autant plus que, voyons d'où le problème est parti. Le problème est parti, c'est simplement parti d'un problème de paix. Mais ce n'est pas seulement un problème de paix. C'est une question de rareté de ressources.
Oui.
Et la communauté internationale, ayant pris en temps des sanctions contre le Soudan, encore qu'ils sont dans l'engrenage de la Cour pénale internationale, le régime, c'est pourquoi je dis qu'il y a...
Et justement, à ce sujet, est-ce que le président Béchir n'est-il pas à la merci désormais de la CPI?
Non.
Donc, il aurait reçu d'ailleurs la garantie de ne pas être transféré. Hein.
Francis, je souhaiterais émettre...
Justement, j'allais vous poser la question, Boukar Al-Fakkar, sur l'avenir judiciaire de Omar El-Béchir.
Non, il y a peu de chances que Omar El-Béchir soit traduit un jour devant la CPI. Ça, je ne pense pas que les nouvelles autorités au Soudan vont livrer un de leurs compatriotes à la Cour pénale internationale.
Cela fait l'objet de négociations d'ailleurs avant son départ.
Oui, bon, c'est ça. Mais en réalité, l'Union africaine ne pouvait pas intervenir dans cette affaire parce que c'était un problème de politique intérieure. Les manifestations font suite à la fin des subventions sur le prix du pain et du carburant.
La hausse du prix du pain.
Oui, c'est ça. Donc, pourquoi ?
Parce que des devises aussi.
Parce qu'en fait, cette crise, elle date de 2011, lorsque le Sud-Soudan a pris son indépendance.
Tout à fait.
Et de fait, le Soudan a perdu 75% de ses recettes pétrolières. Donc, et qu'est-ce qui se passe ensuite ? En 2014, choc pétrolier, chute des prix du baril, donc forcément, chute des recettes. Sachant qu'on est dans une économie qui n'est pas diversifiée, parce qu'en dehors du pétrole, le Soudan est le troisième producteur africain d'or. Et qu'est-ce que le gouvernement a cherché à faire ? Ils ont cherché à mettre la main sur l'or en mettant en place des centrales d'achat et en proposant des prix dérisoires aux orpailleurs. Ensuite, ils ont fait une réforme agricole qui a libéré des terres que les pays du Golfe ont utilisées pour produire divers types de spéculations, mais qu'ils ont ensuite exportées dans leur pays. Donc, les Soudanais n'ont pas bénéficié un tout petit peu de ces réformes-là. Donc, en 2014, avec donc la crise, la chute des cours du baril et tout, donc la crise s'accentue, le gouvernement n'a pas de choix que d'augmenter les prix, ou en tout cas de supprimer les subventions qui faisaient que les prix étaient abordables.
Maîtrisés.
Et donc, en supprimant ces prix, forcément, la population est dehors, parce que...
Là, on est dans les causes...
Et donc, l'Union africaine ne peut pas intervenir. Par contre, aujourd'hui, le point sur lequel l'Union africaine aurait pu intervenir, c'est que la géopolitique régionale va être très compliquée si le Soudan est déstabilisé, notamment par rapport au Tchad, qui occupe une position, disons, centrale par rapport à la Libye.
Et même avec la Centrafrique aussi,
en Centrafrique,
puisque certains mercenaires soudanais
ça.
Sont soupçonnés d'être présents
donc,
en Centrafrique.
Des perturbations en Libye entraîneront forcément un affaiblissement du pouvoir d'Idriss Déby, qui est sur le front déjà du sud libyen avec son neveu Timan Irdimi, qui cherche à le déloger du pouvoir, et qui Idriss Déby qui se maintient au pouvoir grâce à la force Barkhane, en tout cas de la France. Et donc, c'est sur ces points-là qu'est attendue l'Union africaine, pas sur les questions de politique intérieure, parce que ça, les Soudanais vont le régler.
D'accord, merci. Francis, je pense qu'on va passer rapidement au dernier sujet.
Absolument. Sans transition.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
Vous avez eu votre transition, Liliane, transition musicale. Allez-y.
Après l'annulation d'une conférence qui devait se tenir dimanche et lundi pour tenter de relancer le dialogue politique en Libye, l'espoir de paix s'éloigne encore plus dans ce pays déchiré par une guerre depuis la chute de son leader Muammar Kadhafi en 2011. L'annulation de cette rencontre a été dictée par les violents affrontements de ces derniers mois à Tripoli, qui sont d'ailleurs en cours, entre l'armée nationale libyenne, ANL, du maréchal Haftar, que l'on appelle l'homme fort de l'Est libyen, et l'armée du gouvernement d'Union nationale, GNA, du Premier ministre Fayez al-Sarraj, reconnu par la communauté internationale. Monsieur Valentin Dienotin, l'offensive du maréchal Haftar ne met-elle pas définitivement fin à toute option, encore si on devait y penser, de paix par le dialogue ?
Oui, vous voyez, c'est ça le véritable problème en Afrique. Et tout à l'heure, Monsieur Boukar parlait donc de la géopolitique régionale. Vous voyez, nous sommes dans une zone qui est très sensible, où la moindre erreur serait fatale à toute une région. Maréchal Haftar, il sait ce qu'il fait, parce que vous voyez, voilà un pays qui a été complètement déstabilisé. Et aujourd'hui, nous avons deux grandes forces où chacune veut s'assumer. Étant donné qu'ils ont commencé à progresser vers la capitale libyenne. Bon, les combats s'intensifiant, ils se disent qu'ils ont la probabilité de réussir parce que la riposte infligée par l'armée du gouvernement, l'armée d'Union nationale, ça me paraît une résistance un peu affaiblie qui pourrait venir à bout, donc, du maréchal.
Cela dit, quand même, Khalifa Haftar, le maréchal autoproclamé, quand même, espérait, je dirais, une guerre éclair. Hein, il pensait évidemment être à Tripoli depuis
justement,
très longtemps.
Voilà. Mais voilà. Ce qui ne parvient pas, parce que les autres ne vont pas se croiser les bras. Mais si, sauf recours d'une force extérieure, si les choses évoluent-elles avec cette progression timide que l'on note au niveau donc de l'armée du gouvernement du non national. Il y a de fortes chances qu'ils puissent inverser la tendance.
Donc, mais excusez-moi,
la question de Liliane, c'était de savoir si finalement cet épisode ne met pas fin définitivement à toutes les possibilités de solutions politiques.
Oh, oui, moi je pense que cette solution risque donc d'entraver une solution pacifique.
Et surtout pour compléter la question, monsieur Dienantin, surtout qu'il semble qu'on n'en est pas encore sûr que la conquête de Tripoli est irréversible.
Non, ce n'est pas encore totalement irréversible. Mais tel que les choses évoluent, tel que mon constat de loin est que l'armée du gouvernement, le rythme de progression n'est pas rassurant pour inverser la tendance.
C'est ça.
Donc de l'armée nationale et libyenne.
Est-ce que cet épisode Boko Alpha Khan ne signe pas, je dirais, l'échec de toutes les opérations de médiation menées par ce qu'on appelle la communauté internationale ?
Alors, la dernière en date a échoué, c'était celle de l'ONU. La rencontre n'a pas pu se tenir parce que Tripoli était sous des bombardements. Et avant cela, il y a eu une rencontre importante qui a eu lieu en fin février à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Et les deux camps s'étaient entendus pour l'organisation d'élections à la fin de l'année. Sauf que, entre-temps, quelqu'un vient de le dire, le maréchal Haftar a pensé qu'il pouvait inverser la tendance en lançant une offensive rapide sur Tripoli et être définitivement le maître du jeu dans toute la Libye. Bon, il pensait que ça allait être rapide. Malheureusement, ce n'est pas rapide parce qu'il y a
et
des
groupes... Et jouer ainsi sur les discussions politiques le moment venu.
Et tout cela, en réalité, cela traduit un affrontement indirect entre la France et l'Italie. La France et ses alliés, l'Arabie Saoudite...
La France qui soutiendrait le général Haftar, le maréchal Haftar.
C'est un fait. C'est pas qui soutiendrait.
Oui, je n'en ai pas la certitude.
Oui, bon, mais il y a un certain nombre d'indicateurs. Oui. Mais il y a un certain
certains
nombre
parlent de la duplicité de la France. Hein,
exactement. Exactement. Parce que le maréchal Haftar, quoi qu'on puisse en dire, il tient le pétrole libyen. Il contrôle, par exemple, le principal gisement du pays, qui est à 315 000 barils jour, le gisement de Charara, qu'il a conquis au mois de février. Il contrôle l'essentiel du pays. Il reste que la Tripolitaine, la province qui est à l'ouest, donc qui abrite la capitale Tripoli. Et donc, aujourd'hui, son combat, c'est d'éviter. Parce que si on arrive à des discussions, à des consensus, sa victoire ne sera pas totale.
C'est ça.
Et c'est un gars...
Il va devoir partager le pouvoir.
Exactement. Donc, c'est un monsieur qui se bat depuis tellement longtemps, qui croit que là, c'est le moment, c'est une occasion inespérée, vu son âge, de remporter une victoire décisive, parce que n'oublions pas que lui, il avait aidé Kadhafi à prendre le pouvoir contre Idriss Ier, et depuis lors, il n'a rien. Donc il est aujourd'hui dans une position...
Les fruits de la croissance.
C'est sa dernière bataille.
Merci. Oui. Valentin Dienantin, pour terminer en quelques secondes, voilà, vous parliez du soutien présumé de la France au maréchal Haftar. Il en est ainsi, aussi, on dit ainsi, du président Al-Sisi. Il se passe qu'il est aussi président en exercice de l'Union africaine. Si justement la partialité de l'Union africaine, de M. Al-Sisi est avérée dans ce dossier libyen, c'est-à-dire que si son soutien à Haftar est avéré, est-ce que l'Union africaine ne perd pas toute sa légitimité dans ce dossier?
Bon, au fait, je ne veux pas dire que l'Union africaine perd sa légitimité, mais peut-être pourrait perdre...
Au cas où son président serait d'un camp.
Oui, bon, voilà, il y aura donc un problème donc, de parti pris, mais il ne va pas perdre. Mais l'Union africaine risque de perdre la face. Risque de perdre la face parce que, comme le disait tout à l'heure Moka, c'est une question de gros intérêts. Vous voyez, là où il y a le pétrole, il y a un problème de gros intérêts. Et moi, je pense qu'il faudrait mieux que l'Union africaine joue, je ne veux pas dire la neutralité, mais que ce ne s'affiche pas, que le président de l'Union africaine ne s'affiche pas si tant pour donner l'impression qu'il a pris fait et cause pour l'une des deux parties et en conflit. Sinon, ça risque de discréditer complètement l'institution.
En fait, vous savez, sur ces genres de dossiers...
30 secondes, s'il vous plaît.
Sur ce genre de dossier, l'Union africaine n'a pas de prise. L'Union africaine n'a aucun pouvoir, aucune influence sur le cas libyen. Parce que les puissances qui sont en jeu et qui se battent là-bas dépassent l'Union africaine. Et Al-Sisi a beau soutenir... mais l'Union africaine ne compte pas. C'est difficile de le dire. On est tous des Africains, on veut que l'Union... Mais en termes de géopolitique, il y a un cynisme qui est
L'Union africaine ne pèse pas.
Elle ne pèse pas.
Pour régler le conflit libyen.
Merci.
Face aux Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, la Russie, la France, évidemment.
La France et l'Italie.
Merci beaucoup. Le moment est venu d'écouter les messages de nos amis sur Internet. Messages recueillis et livrés à présent par Didier Ladislas Lando.
Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter @débat_bbcafrica et sur notre page Facebook facebook.com/débat_bbcafrica.
Bonjour Liliane, bonjour Francis, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Bénin Jean-Baptiste La Poésie Egué estime que face au régime de Talon, il faut une opposition qui va au-delà des complots de pouvoir, des guerres d'individus et la recherche d'intérêts personnels. Pour notre internaute de Cotonou, celle qui est là actuellement manque de boussole et est en perte de vitesse. Fidèle Charot, quant à lui, demande à notre invité pourquoi il refuse de répondre à la convocation de la justice béninoise. Soudan, archiduc Théodore félicite le peuple soudanais pour avoir changé le cours de son histoire grâce à la manifestation intensive qui a conduit à la destitution du président Omar El-Béchir. Christian Deradj, lui, appelle l'armée à rester neutre afin de permettre aux Soudanais de choisir une personne qui assurera la transition. Libye, Jolissi de Barça David déplore l'absence d'un président capable de maîtriser la situation. Il craint qu'une nouvelle guerre civile en Libye entraîne encore beaucoup de pertes en vies humaines. Merci à Franco Elojayowa, Pancras Lovou et Issifou Nafiou Sido qui nous ont rejoints cette semaine. Merci de continuer à nous suivre sur Facebook à l'adresse Le Débat BBC Africa-Africa Radio et sur Twitter à @débat BBC Africa. Et d'ici là, bon week-end à tous.
Bon week-end à vous, Didier. À vous également, Ladislas Didier. Lando. En une minute, monsieur le député, peut-être la question vous concernant, concernant votre,
très bien,
votre sort judiciaire, si
voilà,
je puis dire.
Alors, je n'ai...
Pourquoi ne répondez-vous pas à la convocation de la justice?
Voilà, je n'ai nullement fui la justice, et je l'ai dit tantôt, que le vrai problème qui était, c'était un problème de la haute cour de justice. Mais le pouvoir qui, dans son désir de nuire à l'opposition, crée de toutes pièces une cour d'exception qui juge en premier et dernier ressort et qui condamne à 20 ans pour un papier qui a été publié sur Internet alors que nous étions attendus pour aller à la haute cour de justice, qu'on nous demande d'aller à la criette, ça n'a pas de sens. Je ne vais pas livrer ma peau à quelqu'un qui veut juste se venger de moi parce que j'ai fait échec par deux fois à la révision de la Constitution. On a une justice régulière.
Et l'opposition qui manque de boussole et en perte de vitesse.
Pardon ?
L'opposition, une question sur l'opposition qui dit cet auditeur manque de boussole et est en perte de vitesse.
Peut-être on peut parler de que l'opposition n'est pas bien unie, mais l'opposition n'est pas du tout en perte de vitesse. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, l'opposition a pignon sur rue. Et c'est ça qui fait peur au président. Il fuit la concurrence. Ce qu'on peut reprocher à l'opposition, c'est que l'opposition a beaucoup de têtes et il n'y a pas l'unité d'action au niveau de l'opposition. Mais compte tenu du naufrage collectif, l'opposition est obligée de s'entendre et c'est ce que nous sommes en train d'assister maintenant parce qu'il y a quand même un comité de crise qui est en train de travailler pour contrer cette velléité du président.
Et vous êtes un exilé parmi Merci. D'autres aujourd'hui, exilé béninois. Hein.
Oui, il y a plein d'exilés aujourd'hui et hors du pays. Il y en a plein. Il y a le ministre Koumi.
On ne va pas les citer tous.
D'accord, merci.
Ça en fait beaucoup en deux ans, évidemment. Valentin Janotin, merci beaucoup d'être venu, député à l'Assemblée nationale du Bénin, secrétaire exécutif du parti Force Coury pour un Bénin émergent, ancien ministre du Bénin, plusieurs fois ministre au Bénin. Merci à notre confrère Bokar Alpha Khan, journaliste à e-radio, spécialiste des relations internationales, animateur de l'émission La Valise Diplomatique sur e-radio, ancien journaliste de Africa 24, il faut le rappeler bien sûr. L'émission a été réalisée à Dakar par Abdou Diop, régie technique assurée à Paris par François Richard, chargé de production Didier Ladislas Lando. Vous pouvez bien sûr écouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs africaradio.com et bbcafrique.com. Je ne vous dis pas rendez-vous la semaine prochaine, Liliane, puisque vous serez là seulement, vous serez de retour dans quelques semaines.
Oui, Francis, j'accepte de prendre les congés que vous m'avez accordés. Je serai donc absente pendant quelques semaines. Et vous allez évidemment bien garder la maison. Au revoir.
Au revoir. Bon week-end à tous. Bon week-end à toutes et à tous.